Micro Méga, Patrick Chompré.
Bonjour, bienvenue, c'est l'actualité scientifique de la semaine avec beaucoup de sujets encore aujourd'hui. Notre invité multifacette Jean-Paul Escande, universitaire, médecin, ancien président de la Commission nationale de lutte contre le dopage, c'est en fin d'émission. En deuxième partie, Darwin, 200 ans et pas une ride, retour sur les découvertes du scientifique anglais et leurs répercussions dans la science aujourd'hui avec Marc Giraud, naturaliste et journaliste spécialisé. Et puis dans quelques instants, une nouvelle station scientifique polaire de concepts révolutionnaires, c'est dans l'Antarctique sur le continent blanc, et plus léger, plus performant, moins lourd, les nouveaux robots sont en préparation. Bienvenue. Micro-méga. Mais tout de suite avec vous, Valérie Cohen, bonjour.
Bonjour.
Quelques infos que nous avons triées dans l'infosphère.
Le baiser, ce moment de fusion avec l'être aimé, serait-il moins innocent qu'il n'y paraît? C'est en tout cas l'avis de deux chercheuses américaines. Wendy Hill, d'abord, professeure de neurosciences. Elle a analysé la salive et le sang de couples hétérosexuels après une séance de 15 minutes d'embrassade langoureuse. Et les résultats révèlent d'importants changements dans le niveau de certaines hormones. Le cortisol, une hormone du stress, baisse. Et oui, comme vous le savez probablement, embrasser détend et fait du bien. Il y a aussi l'hormone de l'attachement, l'ocytocine, qui, elle, augmente chez l'homme, mais pas chez la femme. Aurait-il besoin de ça pour supporter l'humeur de sa chérie? Je vous laisse méditer. En tout cas, selon Helen Fisher, professeure d'anthropologie sociale, l'acte d'embrasser aurait évolué pour stimuler les parties du cerveau responsables de l'accouplement et de la reproduction. Celle d'abord qui commande le désir sexuel, via la testostérone, une hormone davantage présente chez les hommes que chez les femmes. Alors mesdames, sachez-le, quand votre mâle vous fait des baisers fougueux, c'est sans doute qu'il cherche à vous transmettre à travers sa salive un peu de son hormone pour doper votre libido. Pour canaliser ce désir sexuel débridé, se met en action également par le baiser la partie du cerveau qui régit l'amour, centrée donc sur une personne, mais aussi celle qui contrôle l'attachement et permet donc à un couple de durer suffisamment longtemps pour faire des enfants. Nos baisers torrides cacheraient ainsi une machinerie complexe qui nous permettrait de trouver le mâle idéal avec qui élever nos rejetons.
Après les baisers, la mémoire avec une pilule pour effacer les mauvais souvenirs, peut-être pour bientôt. Des chercheurs de l'université d'Amsterdam ont découvert qu'un médicament utilisé d'habitude pour contrôler la pression sanguine pouvait empêcher certains souvenirs de se fixer dans la mémoire. Cette molécule bêta-bloquante, nommée propanolol, empêcherait ainsi la phase de consolidation d'un souvenir. En gros, les souvenirs se fixent dans notre mémoire au cours du sommeil et puis ils sont réactivés et encore modifiables les premières fois qu'ils apparaissent à la conscience et puis à nouveau stockés. C'est cette phase que l'on appelle la consolidation du souvenir, qu'empêcherait donc la prise de cette molécule. Alors à quoi ça sert? Eh bien, les auteurs parlent d'aider les patients atteints de troubles post-traumatiques et donc après un accident ou un événement violent. Ils ont d'ailleurs conduit leurs expériences en ce sens. Les patients n'auront sûrement pas oublié totalement l'événement en question, mais ils en seraient beaucoup moins affectés. À vérifier, c'est dans la revue Nature parue cette semaine.
Le monde est décidément plein de surprises. Laissez-moi donc vous conter cette histoire vraie. Dame Tortue nageait en mer japonaise, carapace sur le dos, bien à son aise. Soudain, un vil prédateur la mordit incognito, sans doute un requin version lutteur de sumo. Un bout de nageoire, il lui arracha et s'en alla ailleurs pour suivre son repas. Repêchée au large des côtes du Japon, la tortue dans un aquarium fit son admission. Impossible de la laisser recouvrer sa liberté, estropiée, elle avait bien du mal à nager. Mais au printemps, des hommes de l'archipel vont lui greffer des nageoires artificielles. Grand spécialiste de ces accessoires, les Nippons ne devraient pas la décevoir. Ils ont fabriqué des nageoires dans le passé pour des dauphins pris dans des filets et blessés. Une difficulté toutefois pour Dame Tortue. La prothèse doit être d'une solidité absolue, car elle doit pouvoir sur la plage se hisser afin de pondre ses œufs en toute tranquillité. Moralité, reconnaissante, la tortue avant le grand saut s'habillera peut-être d'un élégant kimono, installera son étrange nageoire sur un futon et se délectera de requins, particulièrement d'ailerons.
Mmh. Micro-méga avec vous maintenant, François Cardona, bonjour.
Bonjour Patrick.
Vous nous emmenez tout de suite dans le grand froid.
Et le très grand froid, même là-bas les températures peuvent descendre jusqu'à moins 30, moins 50, moins 89 degrés même. C'est la plus basse température jamais enregistrée sur notre planète et par ce froid, toute personne normalement vêtue meurt en moins d'une minute. Nous partons donc pour l'extrême sud, le continent antarctique, où le week-end dernier, la Belgique a inauguré sa toute nouvelle station polaire, Princesse Elisabeth.
Alors Princesse Elisabeth, du nom de la petite fille du roi de Belgique, Albert II, et toujours donc dans le respect de la tradition, eh bien la nouvelle base a été installée non loin de l'endroit où était située la base Roi Baudouin, qui avait donc été abandonnée en 1967. Revenons au présent, car cette nouvelle base polaire nous étonne.
Et effectivement, sa conception est révolutionnaire, je pèse mes mots. La station fonctionne uniquement grâce à l'énergie du vent et du soleil, grâce à des éoliennes et des panneaux solaires. Et ce n'est pas tout, car l'eau consommée y est entièrement recyclée, ce qui représente une véritable prouesse technologique, et toute l'infrastructure est gérée par un ordinateur, un cerveau virtuel. C'est ce que l'on appelle une station zéro émission.
Elle ressemble à quoi exactement ?
Eh bien, avec sa structure aérodynamique et son revêtement isolant qui brille dans le soleil polaire, elle ressemble à une base spatiale de celle que l'on voit dans les films de science-fiction. Elle est haute de 10 mètres et large de 22 et elle peut accueillir jusqu'à 20 personnes. Alors, j'ai réussi à joindre le concepteur de cette base, le célèbre explorateur Alain Hubert, qui se trouve en ce moment même dans la station, ce qui explique la mauvaise qualité de la liaison téléphonique.
L'Antarctique, c'est un territoire qui est deux fois la taille des États-Unis et on se trouve entre l'Amérique du Sud et l'Afrique du Sud, du côté atlantique, en altitude, juste au pied du plateau antarctique, à 200 km de la côte. Et avec toute mon équipe ici, je suis occupé à terminer l'installation des équipements, donc de la station Princess Elisabeth, qui est la première station totalement autonome au niveau énergétique, qui fonctionnera uniquement aux énergies renouvelables. En Antarctique, en été, la nuit n'existe pas, donc il y a tout le temps du soleil qu'on peut utiliser pour produire de l'énergie. Et puis il y a aussi beaucoup de vent, et particulièrement en hiver, quand là, à contrario, bien sûr, il fait noir pendant 3-4 mois ici. Et donc on a combiné l'énergie du vent et l'énergie qu'on peut prendre du soleil pour stocker ça évidemment également dans des batteries afin de réguler la consommation d'énergie. Ça, c'est la première fois au monde que ça se fait en Antarctique. La deuxième chose, c'est que pour pouvoir être très économe en énergie, on a dû être capable de gérer un système où l'énergie disponible est 10 fois inférieure à ce qu'on a en fait besoin. Et donc on a réalisé avec le groupe GDF Suez et Schneider Electric un prototype, un vrai cerveau virtuel en fait qui est capable de gérer cette demande en énergie. Donc il y a deux grandes premières mondiales dans cette station, même au niveau du traitement des eaux. En fin de chaîne, ici, on peut boire l'eau qui vient à la fois des eaux grises et des eaux noires et qui est totalement retraitée, comme dans une station spatiale. Bon, là, on a fait les premiers tests cette semaine et ça marche.
Et cette technologie de pointe développée pour faire face à un milieu hostile et à ses très basses températures, eh bien ces technologies peuvent être adaptées à notre environnement, celui des zones tempérées. C'est ce que souligne Alain Hubert.
Il faut savoir qu'on a utilisé des technologies existantes, parce qu'ici, c'est pas un laboratoire de test qui peut se permettre de ne pas marcher. Donc, ce qui est nouveau, c'est la façon dont on a implémenté et mis ensemble ces différentes technologies pour répondre aux problèmes énergétiques de la base. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est totalement transposable, bien entendu, à des échelles un peu différentes. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Ben, c'est intéressant parce que l'énergie, c'est le challenge que nos sociétés occidentales vont devoir affronter dans les décades qui viennent. Et faire ça en Antarctique, dans un endroit très très difficile au niveau conditions climatiques, eh bien ça montre qu'on a la capacité d'affronter les changements climatiques et qu'en plus c'est porteur d'une toute nouvelle dynamique d'emploi dans nos régions occidentales. Donc c'est un projet qui, même s'il est au bout du monde, il est complètement en ligne avec nos défis sociétaux.
Et oui, la voix d'Alain Hubert qu'on entend, qui nous vient du continent blanc, donc le créateur de la station antarctique belge, l'explorateur, et puis il est aussi le président de la Fondation Polaire Internationale.
Oui, et c'est grâce à l'action de sa fondation que cette base polaire a pu être construite, et surtout grâce à un partenariat financier public-privé. En tout, Princesse Elisabeth aura coûté 22 millions d'euros.
Et donc maintenant, elle va pouvoir commencer à accueillir les chercheurs.
Oui, au premier rang desquels des glaciologues, à l'image de Jean-Louis Tison, ce spécialiste des glaces polaires, professeur à l'Université libre de Bruxelles, a même eu la chance de se rendre sur la station Princesse Elisabeth en novembre dernier, avant son inauguration officielle. Jean-Louis Tison qui m'a confié qu'il n'était pas peu fier d'avoir fait partie de ces premiers scientifiques à avoir dormi sur le plancher de la toute nouvelle station belge. Mais les informations qu'il a recueillies sur place sont véritablement alarmantes. La glace du pôle sud flondrait en effet beaucoup plus vite que prévu sous l'effet du réchauffement climatique. Écoutez le témoignage de Jean-Louis Tison.
Une de nos directions de recherche, c'est justement d'étudier ce qu'on appelle la ligne d'ancrage ou la ligne d'échouage, qui est donc cette zone clé où la glace qui s'est formée sur le continent s'écoule vers la côte et devient flottante sous l'effet simplement du principe d'Archimède. Mais donc ces zones d'ancrage sont des véritables robinets qui contrôlent le débit de la glace depuis le continent vers l'océan et donc contrôlent en partie les variations du niveau marin. Donc nous sommes déplacés sur à peu près 150 km pour aller justement étudier une de ces lignes d'ancrage en bordure de la côte qui est très mal connue et qui a l'intérêt de se trouver aussi en bordure de mer, ce qui fait que nous avons pu en même temps étudier aussi les grands canyons qui s'ouvrent dans cette glace lorsqu'elle devient flottante et qui sont à l'origine de la formation des icebergs.
Qu'est-ce que vos recherches sur place vous ont apporté en termes de connaissances nouvelles ?
Vous avez une grande question qui se pose aux glaciologues actuellement, de savoir si la glace sur ce continent est dans une phase de décroissance sous l'effet du réchauffement climatique, comme on l'a déjà montré pour le Groenland. Et donc il s'avère que pour l'Antarctique, ce bilan est plus difficile à estimer. Et donc une des inconnues de ce bilan, c'est justement de savoir à quelle vitesse les glaces qui deviennent flottantes ont tendance à être libérées vers l'océan. Et donc de ce fait-là, nous espérons pouvoir résoudre une partie des inconnues dans ce domaine.
Est-ce que justement il y a un effet du réchauffement de la planète sur les glaces de l'Antarctique ?
Tout récemment, notamment les mesures satellitaires ont montré qu'il y a là une composante de perte de masse des glaciers et de la glace sur l'Antarctique qui était très mal jugée même dans les derniers rapports du GIEC et qui donc font que peut-être les prédictions de ce rapport sur les variations du niveau marin liées à la déstabilisation de la calotte antarctique sont peut-être trop optimistes et que justement il y a là des processus qui sont occupés à se mettre en place qui vont accélérer probablement le processus.
C'est-à-dire qu'on doit s'attendre éventuellement à une augmentation du niveau marin plus importante que prévu.
Ah, c'est une des hypothèses que nous avons en tête et que nous essayons de tester.
Ce craquement insolite est celui d'un glacier qui se fissure. C'est ainsi que nous quittons Jean-Louis Tison, donc glaciologue à l'Université libre de Bruxelles, l'un des premiers à avoir pu se rendre sur cette nouvelle base antarctique belge, qui va maintenant donc accueillir des scientifiques de domaines très différents.
Ouais, des géologues, des glaciologues, comme on l'a vu avec Jean-Louis Tison, mais aussi des sismologues et des biologistes. Anne Willems est une chercheuse flamande de l'Université de Gand, en Belgique donc, et elle est spécialiste en micro-organismes. Mais je peux vous dire qu'elle a hâte de rejoindre la station Princesse Elisabeth, car pour les fans de bactéries comme elle, l'Antarctique est une véritable terra incognita où tout ou presque reste à découvrir. Anne Willems n'est d'ailleurs pas la seule à s'intéresser à la vie microscopique du Grand Sud. Comme vous allez le voir, les grands laboratoires pharmaceutiques sont eux aussi sur la ligne de départ.
Nos recherches sont très fondamentales parce que on a très peu d'idées des types de bactéries qu'il y a là. On ne les a jamais vues et donc ils ont des adaptations assez nouvelles. Par exemple, il y a des groupes avec beaucoup de pigments parce qu'il y a là-bas une grande radiation de UV qui est en fait dangereuse aussi pour nous. Et ces bactéries, on voit qu'ils ont beaucoup de jolies couleurs parce qu'ils ont des pigments pour se protéger. Donc on peut s'imaginer qu'ils peuvent peut-être être appliqués dans des crèmes protectrices contre le soleil. Pour les applications dans le domaine de la pharmacie, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités de découvrir de nouvelles substances qui ont une activité antibiotique ou peut-être aussi qui peuvent avoir un effet thérapeutique. En Antarctique, il y a le potentiel d'avoir beaucoup de nouvelles possibilités.
Anne Willems, donc bientôt au travail sur la station Princesse Elisabeth.
Et elle ne sera pas la seule car de très nombreux chercheurs européens vont être accueillis dans ce petit bout de Belgique en Antarctique. Après l'interview que nous avons écoutée, Anne Willems m'a dit qu'elle était ravie de pouvoir en quelque sorte rendre la monnaie de la pièce à ses collègues étrangers et européens, car depuis la fermeture de l'ancienne station belge en 1967, eh bien, les chercheurs belges n'avaient pas d'autre choix que d'utiliser les installations antarctiques des autres États européens.
Donc ils vont pouvoir accueillir leurs collègues dans un lieu très confortable.
Et très respectueux de l'environnement, comme on l'a vu. Reste maintenant la question du transport, qui est véritablement le seul petit détail qu'Alain Hubert et ses collègues n'ont pas réussi à résoudre. La base belge est en effet située à 200 km à l'intérieur du continent antarctique. Et donc, pour y acheminer vivres et matériels, eh bien, les moyens de transport sont toujours des plus classiques et donc toujours très polluants.
Mais le transport, c'est souvent le problème qui reste en matière d'environnement. Ce sera donc la prochaine étape de cette aventure. Plus d'infos sur antarcticstation.org. Merci François.
Merci Patrick.
Micro-méga fin de cette première partie avec vous, Dominique Desaunay. Bonjour.
Bonjour Patrick.
Et vous nous parlez des robots, des dernières avancées en matière de robotique qui, pour une fois, ont lieu en France.
Cocorico. Imaginez, Patrick, que vous achetiez un robot chez votre marchand préféré pour la modique somme de 2 999 € seulement et en promotion. Un robot formidable, capable à la fois de surveiller toute intrusion dans votre appartement, mais de plus nounou accompli, capable de lire des histoires à vos enfants au moment de les coucher. Très robuste, pesant une demi-tonne, entièrement en titane, équipé de chenillettes en téflon pour ne pas abîmer votre moquette, le NEC plus ultra de la robotique chez vous, hors drame familial. Ce robot que vous avez acheté une fortune déplaît à votre enfant car il ne veut pas qu'on lui raconte des histoires mais qu'on lui chante une berceuse. Que faire ? Votre robot ne sait pas chanter. Petit A, le ramener chez le marchand, en racheter un autre. Petit B, vous mettre à la programmation extrêmement complexe de la robotique.
Il n'y a franchement aucune chance pour que j'achète un tel robot, mon cher.
Et vous avez raison, surtout que depuis peu, un nouveau concept de robot a vu le jour. Plutôt que d'avoir ces gros robots encombrants, performants, certes, mais très chers et à usage spécifique, il existe maintenant des robots dont la programmation, en intelligence artificielle, est envoyée à distance grâce au réseau Internet, voire même par le réseau de la téléphonie mobile.
Les robots en ligne, en quelque sorte, c'est une innovation que nous devons apparemment à Jean-Christophe Bailly, un jeune polytechnicien qui a créé une société qui s'appelle Ghostai, qui est hébergée par un site parisien de l'ENSTA, donc l'École Nationale Supérieure de Technique Avancée.
Et les recherches de Jean-Christophe Bailly lui ont tout d'abord permis de créer un langage universel pour les robots qui convient à n'importe quel type de machine. Ce langage de programmation s'appelle Urbi et l'innovation consiste en fait à décentraliser l'intelligence artificielle et donc de proposer des robots domestiques à faible coût évolutif, car rechargeant leur programmation de façon continue. Mais quelle est l'intelligence artificielle exacte dont sont capables les robots de Jean-Christophe Bailly? Voici sa réponse.
Vous êtes maintenant connecté sur Ghostinet.
Ce sont des automates ou des robots?
Les premières offres qu'on lance, ce sont des automates, c'est-à-dire on les pilote. L'étape d'après, c'est de leur donner plus d'autonomie. J'appelle mon robot, donc je parle, je lui dis va dans la cuisine et dis-moi s'il y a quelque chose qui se passe ou dis-moi si tel événement s'est passé. On raccroche, le robot est autonome, il va dans la cuisine, il fait ce qu'on lui a dit. Éventuellement, il délivre un message à une personne qui est capable de reconnaître son visage automatiquement et nous rappelle ensuite pour dire voilà, très bien, il ne s'est rien passé dans la cuisine ou j'ai délivré le message. Ensuite, on a des applications d'aide aux personnes âgées, des applications ludiques, éducatives pour les enfants. On a vraiment beaucoup de choses. L'idée, c'est que le robot va être capable, parce qu'il est mobile, d'avoir de l'autonomie et donc de faire tout un tas de choses. Pour le coup, ça devient possible.
Pourquoi les Coréens sont plus forts que nous?
Dans leur approche de la robotique, la Corée s'est donné comme objectif d'avoir un robot dans chaque foyer d'ici, je crois, 2010. En Europe et au Occident, il y a certaines craintes des robots qui existent. Je pense que les robots, c'est comme tout bouleversement, et c'est la société qui doit se structurer pour guider ces révolutions technologiques vers les côtés positifs.
Alors voilà, donc une innovation française a-t-elle la moindre chance de nous faire remarquer un peu sur un marché vraiment dominé par les Asiatiques?
Oui, Asiatiques, avec des robots encore très coûteux propriétaires spécialisés dans leurs fonctions, au contraire de la robotique de Jean-Christophe Bailly, on l'a bien compris, qui est réservée donc au plus grand nombre.
Merci Dominique. Micro-méga sur RFI, l'actualité scientifique. Dans quelques instants, restez avec nous, on va parler de ce cher Charles Darwin et de l'évolution, juste après la synthèse de l'actualité sur RFI.